Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans toutes les ZAD.
En direct du studio 511, une émission réalisée sans tronçonneuse ni pelleteuse par Céline Hila, assistée de June Lauper avec Ronan Mahé à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, des arbres, des tronçonneuses, un mur et des citoyens. À Marseille comme à Romainville, les habitants des quartiers populaires se mobilisent contre des projets de requalification urbaine. À Marseille, un mur de béton a été érigé pour empêcher toute contestation. Et à Romainville, des grillages encerclent désormais la forêt. Récit de deux batailles croisées au nord et au sud, de résistance obstinée.
Ce mur qui coûte 390 000 euros, il est déjà tombé. La seule âme l'a déjà aussi reconstruit. Nous sommes rentrés dans quelque chose d'assez étrange, une guerre du mur.
Après avoir épuisé toutes les voies démocratiques normales, on en est arrivé à être obligé d'utiliser nos corps pour arrêter cette catastrophe annoncée.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Il y a une guerre des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la guerre et nous sommes en train de gagner. Cette phrase célèbre de Warren Buffett trouve tout son écho dans l'actualité cette semaine. Alors que le parquet national financier a requis jeudi une amende de 3,7 milliards d'euros contre la banque suisse UBS, accusée de démarchage illicite de clients français et de blanchiment aggravé de fraude fiscale, à Cannes, un salon de l'évasion fiscale se déroulait pour de vrai et en toute tranquillité. Rien n'effraie les plus riches pour tenter d'échapper à l'impôt, le tout c'est de ne pas se faire prendre. Car selon le PNF, ce sont entre 3,7 et 23 milliards d'euros d'avoirs français qui seraient dissimulés en Suisse, précise Éric Rousseau, son représentant, qui rappelle au passage que la fraude à l'impôt, ce n'est rien d'autre qu'un vol commis au préjudice de la collectivité. Un vol qui a eu un impact social direct, comme nous le rappellent les juges du tribunal pour enfants de Bobigny, qui lançait lundi un appel au secours pour dénoncer le manque de moyens criants qui frappe la protection à l'enfance dans un des départements les plus pauvres de France. Des enfants mal protégés qui ne sont plus suivis faute de personnel et qui, laissés à l'abandon, deviendront vulnérables et ce n'est plus à prouver en proie à la violence. C'est donc toute la société qui en paiera le coup. Et si cette guerre que les riches mènent est sociale, elle est aussi territoriale. À Marseille, le maire, Jean-Claude Gaudin, est parti depuis son élection à la reconquête des quartiers populaires pour en chasser les plus pauvres. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer à la Plaine en ce moment, Guy.
Oui, à Marseille, la coupe est pleine, comme on dit là-bas. Annoncé depuis des années, ce grand chantier à 20 millions d'euros de la Plaine, donc la plus grande place de Marseille, a débuté à coups de tronçonneuse le 11 octobre dernier pour, je cite, requalifier et faire monter en gamme ce quartier populaire. Mais ses habitants, eux, ne veulent pas se laisser chasser.
Et à Romainville, tout près de Paris, c'est à peu près la même chose qui est en train de se passer. La gentrification urbaine bat son plein à mesure que le Grand Paris avance et que l'une des dernières forêts urbaines recule, Antoine.
Oui, une émission de radio de lutte, de DEX, parce qu'un territoire, ça se défend à Marseille comme à Romainville, où les riverains de la forêt de la Corniche résistent à la destruction de ce biotope improbable à 2 km de Paris. Et les habitants de la cité Gagarine, qui surplombe cette forêt, deviennent indésirables. La requalification des quartiers périphériques attise l'appétit des promoteurs et des aménageurs, au détriment des arbres tronçonnés et des habitants pauvres relégués plus loin.
Comme un bruit qui court à Marseille et à Romainville, des arbres, des tronçonneuses, des citoyens, c'est jusque 17h sur France Inter.
Tension et contestation ce matin à Romainville. Valérie Pécresse était venue présenter son nouveau projet d'aménagement de la forêt de la Corniche des Forts.
On va garder notre forêt !
Une partie des arbres doit être défrichée, 8 hectares sur les 60, pour aménager l'île de loisirs de la région, avec pelouse, mur d'escalade et même poney club.
Non, non, non ! À la déforestation !
Oui, on va défricher, et l'objectif, c'est au contraire de revégétaliser.
Non, non, non !
La nature n'a pas besoin de l'aide des humains pour se développer.
Alors que les travaux démarrent en octobre, les opposants réclament un moratoire sur un projet qui n'en est déjà plus un.
Depuis ce matin, les premiers bulldozers sont arrivés à la lisière de cette forêt de Romainville. Notre ville, Romainville, comme les villes d'à côté, Pantin, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, etc., vous savez bien, se densifie. Il est nécessaire de permettre à tous ces gens qui arrivent en plus d'avoir des espaces verts ouverts.
Mais là, c'est vraiment un pauvre projet avec des pauvres aménagements qu'on peut tout à fait mettre ailleurs. Donc c'est ça qui met en colère.
Les bulldozers vont reprendre leur travail dès lundi.
Guy Vonctil.
Les opposants, eux, ne baissent pas les bras.
Charlotte Perry.
À l'heure où les problèmes de réchauffement climatique sont un défi majeur, détruire 2000 arbres, ça me semble inconséquent.
Antoine Chao.
Et 1, 2, 3 degrés. La forêt, faut pas la bétonner.
Hashtag comme un bruit.
Résistance.
Alors ici, c'est une forêt qui a poussé sur des anciennes carrières de gypse. Donc c'est une zone qui n'est pas sécurisée, donc interdite au public, et donc qui s'est développée depuis 50 ans. Et donc c'est un exemple unique en Île-de-France de forêt de ce type-là, quoi. Voilà.
On veut garder notre forêt. On veut garder notre forêt.
Ben moi, je m'appelle Marianne Lessou, j'habite à Noisy-le-Sec, limite Romainville. Voilà, je suis prof de SVT dans mon métier. Alors après, il y a donc un projet qui a été porté à la fois par la maire de Romainville et Pécresse de la région, de faire une base de loisirs. Alors à la base, leur idée, c'était on rase tous les arbres, on comble toutes les carrières et on fait une base de loisirs. Donc ils ont confié cette gestion de cette base de loisirs à Jeunesse et Sport. Et donc, ce qu'on nous propose à l'heure actuelle, c'est de raser des arbres pour mettre des agrès, des parcours de santé, des jeux pour enfants, etc., des pelouses et des bronzes. Alors que les parcs, ici, il y a une pelouse. En face, il y a des agrès qui sont pas du tout entretenus. Donc nous, on pense que autant, évidemment, on peut pas confisquer cette forêt qui est magnifique au public, mais qu'on peut faire autre chose que des pauvres aménagements. On pourrait être porteur d'un projet ambitieux de découverte de la forêt avec des passerelles qui rentreraient dans la forêt où les gens pourraient observer la forêt. Mais pas raser 8 hectares pour mettre un éco-pâturage de moutons, une base de enfin des parcs pour enfants, etc. Voilà. C'est surtout la pauvreté du projet qui est portée au regard de ce lieu qui est unique, uniquissime. Je passe ma vie à expliquer aux enfants que le réchauffement climatique, c'est problématique. Quand on sait qu'un arbre, c'est 5 climatiseurs, ici, ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous proposer d'abattre 2000 arbres. Donc, comment moi, je passe ma vie à expliquer aux enfants qu'il faut préserver la planète, qu'un arbre, c'est important, etc. Et là, je vais laisser abattre 2000 arbres. C'est complètement contradictoire avec voilà, tout ce que je peux passer ma vie à enseigner. Quoi. Voilà.
Sylvain Piron, je suis de métier, je suis historien médiéviste, mais je me promène souvent autour de cette forêt à laquelle je suis très attaché depuis des années. Et j'ai été édifié de voir que le projet dont on parlait depuis très longtemps de construction d'un base de loisirs à la place de cette forêt allait être mis en chantier. Donc je me suis impliqué depuis le mois d'août avec mes amis de l'association des amis de la forêt de la Corniche des Forts. On s'est lancé dans une action un peu plus visible, donc lancer une pétition, organiser des rencontres, des pique-niques en bordure de cette forêt pour sensibiliser les habitants et le grand public. Et on pense que c'est une cause nationale, donc maintenant les médias nationaux également, sur ce cas, parce que c'est tout à fait exemplaire d'un projet dépassé qui n'a plus de raison d'être, tout simplement.
Bon, là, il y a des affiches là, qui ont été, enfin des panneaux, la corniche des forts, ouais, des travaux respectueux de la nature.
Oui, mais ça,
quand même.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, il y a un mot qui s'appelle le greenwashing, on lave plus vert, on fait semblant d'être amis de la nature, alors qu'en fait, si on regarde bien les photos, c'est n'importe quoi. On voit des gens assis dans l'herbe qui sont heureux de contempler des moutons derrière des barrières et du béton. C'est juste une absurdité complète. En fait, l'espace, c'est une ancienne carrière de gypse. C'est donc toute la colline a été exploitée pour le plâtre de Paris, qui est très beau, très précieux. Et depuis 50 ans, c'est devenu une forêt qui s'est développée sur la friche, enfin, donc l'arrêt de la carrière. Et cette forêt, depuis 25 ans, la région Île-de-France veut en faire une base de loisirs. Nous, on est prêt à discuter sur les modalités de stabilisation des sols, de sécurisation, mais on sait qu'ici, il n'y a aucune raison de détruire la forêt pour en faire une prairie. Ça n'a de sens que du point de vue de la stratégie immobilière de la ville de Romainville, qui est en train de se gentrifier. On détruit des barres HLM pour construire des immeubles de standing avec vue sur le parc. Et pour que la vue soit sur le parc, il faut casser un bout de la forêt pour avoir un accès au parc.
Voilà, pour l'instant, on est juste au pied de la cité Gagarine.
Hein. C'est ça, la belle cité Gagarine qui est menacée d'être détruite pour créer un écoquartier. Madame Corinne Valls, maire de Romainville, était l'héritière du maire communiste qui a, donc elle a pris le pouvoir à mi-mandat en 98. En 2001, je crois, elle a quitté le parti. Petit à petit, elle a glissé vers le PS. Elle a été suppléante de Claude Bartolone à l'Assemblée nationale en 2012 et alliée aussi de la droite. Et elle a clairement une stratégie de chasser les classes populaires pour faire venir des gens plus fortunés à Romainville qui puissent profiter de cette magnifique forêt, comme disent Madame Valls et son amie.
Dans la continuité du projet en fait, d'allongement de la ligne 11 du métro. C'est ça, le métro va arriver à Romainville.
C'est ça, effectivement, le métro présent s'arrête à Mairie des Lilas et deux stations plus loin, on aura un accès direct ici. Et là, Romainville, depuis 5 ans, ça explose. Les prix ont flambé. La construction est partie de façon, dans tous les sens. La mairie a tout autorisé. C'est la ville qui se bétonne le plus rapidement en France. C'est assez effrayant ce qui se passe. Tout ça pour donner du standing et littéralement liquider le patrimoine de la ville.
Et le patrimoine social aussi, quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que Romainville a été quand même un des fiefs des anarchistes individualistes au début du XXe.
Mais c'est une ville très intéressante qui a une histoire très très riche. Et effectivement, là, c'est normalisé, totalement uniformisé. C'est de la banlieue bourgeoise, faisant imitation ville d'une tristesse effroyable.
Mais il reste ce petit bout de forêt sauvage.
Voilà. Donc c'est garder un peu de sauvagerie. En fait, la forêt n'est pas du tout un espace totalement vierge. On n'a jamais vu le plan des carrières. Voilà, on voudrait avoir le détail de qu'est-ce qui est dangereux, où est-ce qu'il y a vraiment des opérations de comblement qui sont indispensables. Pour l'instant, on ne le sait pas.
Ouais, il y a comme des cratères, hein, c'est ça ?
C'est ce qu'on appelle des fontis. Et en fait, ça c'est le début d'un effondrement, mais en dessous, il y a effectivement ces cathédrales qui doivent avoir jusqu'à 20-30 mètres de profondeur. Donc tout n'est pas encore totalement effondré. Hein, il y a des endroits où ça s'est bien effondré, d'autres ça peut encore tomber plus bas. Mais, et c'est un point aussi important à noter, les arbres tiennent le sol. Les racines des arbres aident à consolider le sol. Alors ça peut s'effondrer effectivement à tout moment si par en dessous c'est vraiment miné, mais sinon les arbres consolident la surface et un des problèmes du comblement c'est que ça peut provoquer ce qu'on appelle un stress hydrique, c'est-à-dire faire sortir l'eau qui est pour l'instant qui reste au niveau du sol, donc dans les racines des arbres. Enfin, ça a été constaté dans certains cas de l'effet négatif sur la végétation d'un comblement de carrière. Voilà. Donc il peut y avoir un appel d'eau en fait qui fasse tomber l'eau du sol et que le sol se dessèche et les arbres meurent. Voilà, donc la forêt est menacée par le comblement davantage que par les galeries d'après nous. Mais on a besoin encore d'avoir des données, de pouvoir discuter. Et on ne va pas discuter sereinement si les broyeuses et les pelleteuses sont en action. On regarde de l'extérieur, n'est-ce pas ? On n'est pas rentré à l'intérieur du bois.
Non, on voit de la c'est tout à fait.
Au loin, avec nos jumelles, on distingue de la rue Balise qui indique des zones. Alors, il y a deux sortes de choses. Il y a des arbres protégés et il y a la fameuse renouée du Japon, qui est une plante décrite dans le vocabulaire légèrement xénophobe de l'administration comme une plante invasive. C'est une plante japonaise invasive, c'est les jaunes qui sont là. Nous, on dit juste une plante pionnière, ça veut dire une plante qui se développe. Alors certes, elle est très résistante, elle est robuste, mais elle joue un rôle très positif également. Elle dépollue les sols. Et nous aussi, moi je suis médiéviste, donc je vois les choses d'une très longue durée. Je ne suis pas pressé, je pense que la renouée maintenant est vue comme un fléau, mais c'est un fléau temporaire qui aide à recoloniser, à revégétaliser certaines zones à laisser à l'abandon ou à dépolluer des sols. Et c'est ce qu'elle fait ici, je pense, et la renouée maintenant prend de l'espace et elle va se résorber toute seule d'ici 10, 15, 20 ans. Voilà. Mais effectivement, c'est entouré par de la rue Balise parce que ça ne doit pas être traité par des moyens mécaniques violents, par des broyeuses, parce que n'importe quel petit fragment de tige peut se bouturer tout seul spontanément et redonner naissance à un plant. Alors c'est assez amusant, on a constaté mercredi matin sur une partie qui a été traitée justement, qui était balisée, on a observé que la broyeuse était rentrée dans un bosquet balisé.
Qui est venu répertorier ici ? Parce que je vois que là, il y a un petit boulot là, qui a été marqué.
Oui, voilà. Le boulot, c'est un arbre historique justement. C'était l'arbre historique de ce coteau. Les Lilas, le centre-ville des Lilas était juste jusqu'en 1840 un bois de bouleau. Et le flanc du coteau était aussi rempli de bois de bouleau. C'est l'espèce locale. Maintenant, ça a été plutôt remplacé par des sycomores et des frênes et le robinier faux acacia qui est aussi considéré comme invasif alors qu'il est là depuis deux siècles. Voilà. Donc certains arbres ont été marqués à protéger, qui ont des pastilles rouges. D'autres sont marqués d'un trait de peinture orange comme arbre à abattre. Et ce qui nous attriste beaucoup, c'est les services de la forêt de la région. Admettre que c'est un espace remarquable, mais de même que les gens de l'Agence de la biodiversité l'ont dit également, mais tout le monde considère que sur 27 hectares, on peut en sacrifier 8, c'est pas un problème.
Il y a toute une végétation aussi de lianes, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est ce qui rend la chose assez exceptionnelle. C'est le côté un peu jungle qui fait qu'il y a des lianes, des clématites, du houblon qui grimpe sur les arbres. On l'arrache généralement, mais là, le houblon prolifère sur des arbres également. Donc c'est ça qui donne ce côté de végétation un peu tropicale, même parfois assez étonnant. En fait, donc le chantier est plus bas, le chantier part de plus bas. Ils ont créé une voie d'accès depuis lundi, donc en traçant leur chemin avec une broyeuse, une pelleteuse. Ils poussent les arbres à la broyeuse. Enfin, c'est assez monstrueux que les arbres craquent pas. Puis après, là, il y a de l'abattage à la tronçonneuse. Voilà, je tiens pas trop à rester parce que ça me fend le cœur ici. Là, vraiment. Et ça, ça a été coupé vendredi.
Trafic de France Bleu Paris. Si vous souhaitez poser vos questions à la présidente de la région Île-de-France, Maya nous a contacté. Elle a 13 ans, Valérie Pécresse. Bonjour Maya.
Bonjour.
Vas-y, je t'en prie, elle t'écoute.
Bonjour, je voulais vous poser une question à propos de la base de loisirs à Romainville.
Alors justement, c'est exactement pour toi. C'est un projet écologique et populaire.
Une femme parle maintenant.
Ce sont des carrières avec des risques d'effondrement.
Mais c'est nous. Il faut que vous veniez.
Donc la région va reprendre le projet avec la mairie de Romainville et nous allons défricher 4 hectares, combler les carrières et redonner 8 hectares pour que les habitants de Romainville, de Pantin, de tous les habitants de Seine-Saint-Denis puissent venir se promener.
Minutes 55 secondes, très exactement.
Va, Adim, nous.
Ici Vostok, ici Vostok. Les instruments de bord fonctionnent à merveille. Le spectacle est fantastique. Mais fantastique. De ce bleu encore terrestre, au noir d'encre des espaces sans limite, j'ai traversé la plus merveilleuse palette de couleurs qu'on puisse imaginer. Des bleus, encore des bleus, de plus en plus foncés. Des mauves, des lilas, des violets soutenus. C'est beau. Terminé.
C'est comment votre prénom ?
Madame Motu Marie-Thérèse. Je viens de l'Est, moi. Donc j'ai été en 68 dans l'Est et j'ai habité ici.
Et vous alors ?
Eh bien, moi, monsieur, ça fait 50 ans que je suis ici. Je m'appelle Madame Duchamp-Liliane.
Et vous avez entendu parler, là, il y a une mobilisation là pour la corniche d'effort. Vous en pensez quoi, vous ?
Ben nous, on en pense que de toute façon, ils vont décider eux-mêmes de faire. Il y a eu une manif, mais il y a eu la police aussi. Donc, on verra bien. Hein. Nous, on... si vous voulez qu'on dise.
Il y a d'autres projets aussi de démolir des bâtiments ici et peut-être même de raser la cité. Là. Vous êtes au courant de ça ou pas?
Oui, monsieur, on est au courant de ça, mais les immeubles, ils ne sont pas si moches que ça. Vous savez, il y aurait eu un petit ravalement, un petit quelque chose. On est bien ici quand même.
Ici Vostok, extraordinaire. En quelques secondes, je suis passé de l'ombre à la clarté, des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour. Que dire de plus? Je ne sais pas, je ne sais plus. Terminé.
Voilà, parce qu'en face, effectivement, de la cité Gagarine, il y a les projets immobiliers qui commencent
à pousser,
il y a des grues énormes.
Donc je suis Mohamed Bougami, vice-président de l'association Spoutnik d'Al à Romainville. Clairement, c'est une gentrification qu'on veut faire. On veut renouveler une population au sein de Romainville, on veut renouveler la population. Il faut croire que c'est un Kleenex usagé, qu'on la prend, on la met à la poubelle. Hein, c'est un peu ça, n'est-ce pas mesdames?
Moi je te l'ai montré. Hein.
Je vous proposais un relogement où ça?
Oh monsieur, à Jaurès.
C'est loin Jaurès, c'est ça?
Et d'abord monsieur, il n'y a pas un bus, il n'y a pas une histoire de pour aller en course. Non, non.
C'est le bout du monde.
Oui, 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 c'est même pas le bout du monde. Vous voyez, je préfère aller en bas de la côte. Au cimetière.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, il est 8h moins quart du matin, lundi 15 octobre. Il y a les tractopelles qui ont démarré avec les ouvriers qui vont prendre le chantier à 8h. Et il y a une petite délégation de militants qui rentre dans la forêt. C'est la deuxième semaine, hein, c'est ça?
La deuxième semaine, oui. Ouais. Ils ont commencé très fort, en déposant du gros matériel. Ah.
Là, on est sur une base de loisirs régionale. Voilà, on va demander à rencontrer la présidente de la région.
Et 1, et 2, et 3 degrés. La forêt, faut pas la bétonner.
Regardez les souches, ils ont fait un petit tas là.
Ils ont dessouché aussi. Ouais,
ah, bah ils dessouchent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait rien eu avant.
Ah, avec c'est les beau ici, hein. C'est super beau
c'est,
ici.
C'est rien.
Ouais. C'est un magnifique poumon pour Paris, pour la région parisienne, pour le 93. Une biodiversité. Voilà, mais tout le monde le répète, la même chose.
À deux bornes de Paris
Et même la Grand Paris, puisque on a ça bientôt, c'est le Grand Paris ici. Oui, c'est la région parisienne, c'est l'Île-de-France.
Oui, mais ici,
c'est un peu ça le problème, ici, aussi, le Grand Paris.
C'est un futur arrondissement de Paris.
Il y a les tracteurs qui arrivent là, ensemble. Il y a des pelleteuses qui sont en action. Alors Hélène, faut bloquer ce tractopelle là, hein, c'est ça quand même.
Oui, c'était l'idée quand même. On a épuisé toutes les voies de dialogue démocratique depuis longtemps. On met en jeu nos corps pour arrêter cette aberration. Quoi. C'est l'écologue de la région qui disait que c'était un site unique en Île-de-France et peut-être en France. Et on va le bousiller.
Et en attendant, le tractopelle recule. Hein.
Voilà, on hein va circuler le tractopelle.
La force
voilà
citoyenne.
Voilà. On va rester jusqu'à
10h30.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 personnes jusqu'à 10h30 déjà.
Et après,
voilà.
Moi,
et après on se relaie.
On a besoin d'un interlocuteur voilà politique. Voilà.
Romainville, c'est qui? Parce que
non,
moi, je suis
le maire de Romainville. Là, on est sur une base de loisirs régionale. Voilà, on va demander à rencontrer la présidente de la région. Après, on va être obligé d'improviser en fonction de ce qui se passe. Hein, voilà. Et puis, à chaque fois, on demande à rencontrer Madame Pécresse.
Et 3 degrés. La forêt, faut pas la bétonner.
Du renfort.
Ah, voilà.
Voilà le renfort des
Pantinois,
ouais.
Oui, il y en a d'autres.
Ça arrive de toutes parts.
Bon, on a fait reculer là déjà.
Elle était où celle-là?
Elle était à 100 mètres plus loin.
D'accord, ah oui quand même.
150 mètres plus loin, elle a reculé. Et depuis, ils ont dû appeler la police, là on attend.
Non, 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 on va,
Et bien voilà. Alors, gilet pare-balles. Oui, oui, on est tous responsables.
On va reprendre les bases. Il y a la loi. Vous êtes sur un lieu. Une occupation illégale. Tout est carré, donc il va falloir quitter les lieux. Voilà.
On va rester.
Bah, malheureusement, vous êtes. Il y aura usage de la coercition si vous ne quittez pas les lieux. Vous êtes prévenus.
Ouais. On est là pour protéger la forêt, protéger les arbres, monsieur. Voilà. Donc on va rester.
Non, mais il n'y a pas de souci, en fait. La cause, je m'en fiche, en fait.
Ouais.
Si vous avez une cause, vous usez des arguments légaux pour pouvoir la défendre. Voilà.
Ben, moi, je suis citoyen engagé. Voilà.
Moi aussi, je suis citoyen. Je vous ai pris. Peut-être que je suis pour votre cause, mais le fait est que votre action est illégale actuellement.
On va être clair, on ne bougera pas tant qu'on n'aura pas vu Madame Pécresse. Voilà.
Madame Pécresse, elle n'est pas à votre disposition en fait. Si vous voulez voir Madame Pécresse, vous lui faites un courrier, vous serez reçu.
On leur a abattu toute la forêt. Vous en avez d'autres comme ça.
On attend toujours la réponse.
Et on lui a écrit. Vous inquiétez pas,
on
veut une concertation, un référendum.
Mettons un moratoire, un arrêt des travaux.
Molène, c'est mieux que la semaine dernière, là, quand même.
Ah, il y a un net saut quantitatif, aujourd'hui. Voilà. Bon, d'ailleurs, le saut quantitatif, il est évident de notre côté, mais du saut qualitatif aussi, puisqu'on a la police nationale. Voilà. Donc, on a un interlocuteur qui est quand même pas très ouvert au dialogue. Bon, après, chacun son job. Bon, nous, ici, la seule raison pour laquelle on est là, c'est pour essayer de montrer à Valérie Pécresse qu'elle est dans une erreur dramatique et qu'elle l'emportera pas au paradis et qu'on ira jusqu'au bout et qu'on lâchera rien, comme on dit communément. Bon, moi, je suis Hélène Zanier. Je suis un petit peu dans les animateurs de ce collectif. Je ne vais pas donner tout mon pédigré quand même.
Devant le tractopelle aujourd'hui, quoi.
Voilà, aujourd'hui, après avoir, je le dis à chaque fois, mais je le répète, après avoir épuisé toutes les voies démocratiques normales, on en est arrivé à être obligé d'utiliser nos corps pour arrêter cette catastrophe annoncée, qui est complètement immorale au dernier degré, et qu'on voudrait bien qu'elle soit illégale également, parce que la justice climatique, ça a du sens aujourd'hui. Là, c'est des gens qui nous emmènent dans un mur qu'on va rencontrer extrêmement rapidement, extrêmement. Le dérèglement climatique, il n'y a plus personne pour le nier, et chez nous déjà, et partout.
La SP est arrivée.
Je vous demande de battre gentiment, monsieur, dame. Faites attention, vous mettez vos capes.
Valérie Pécresse est arrivée ?
Non, c'est l'AFP. Là,
c'est l'AFP, ça sert à rien.
Moi, comme ça, moi, ça n'a jamais été porté par des flics.
Alors, tout le monde s'assoit sous les chenilles du tractopelle. Non, c'est un bulldozer, ça.
Et 1, 2, 3, 2, 3, c'est la crise contre l'humanité. Et 1, 2, 3, 2, 3, c'est la crise contre l'humanité.
Il remballe. C'est l'ouvrier qui va ranger la pelleteuse, la machine. Hein.
On est dans la forêt.
Oh là là! Ah, ça c'est pas possible, j'arrête!
Ils rangent le matériel, quoi! Bravo!
Et puis c'est bien parce que vous allez être payé!
Ah bah oui, mais moi je fais des bornes!
Dans notre groupe, il faut quand même le signaler, il y a Catherine.
fera connaître son identité au bon moment.
Il y avait une petite planète sur les bords d'une galaxie. Une jolie petite planète pleine de fureur et de bruit qui faisait gentiment le tour de son soleil pendant que les habitants jouaient dès leur réveil. Il faisait de la musique.
Ça y est, qui sont sortis.
Sur France Inter.
Mercredi 17 octobre. Il y a une cinquantaine de défenseurs de la forêt qui sont là. Le chantier a commencé. Il est 8h du matin. Il y a des engins là tout autour donc qui sont en train de déboiser à l'intérieur de cette forêt préservée. La corniche des forts.
Ouais, c'est déprimant. Et puis ils coupent tout. Et là, ils les réduisent en petits morceaux. Là, ils font du petit bois. Voilà. Là, ils ont sorti aujourd'hui. Ils ont sorti les gros engins. Hein. On les a interrompus pendant une heure ou deux, mais voilà. Là, ils sont revenus à l'attaque. Hein. Alors, on nous explique que c'est dangereux de rentrer dans ce périmètre parce que il peut y avoir des effondrements. Et là, on a des engins de plusieurs tonnes. Qui passe la journée là, voilà, et visiblement là il n'y a pas de danger.
Ça va pas, t'as vu, on a assisté au carnage, c'est une catastrophe quoi. Mmh. On est rentré d'ailleurs hier pour arrêter une machine, bon, on sait. Alors maintenant, si tu veux, il y a l'intimidation à la répression par le fric quoi, on va nous saigner pour nous empêcher de. Et là, hier c'était très clair quoi, le message c'était on ne pouvait pas rester dehors. Ça aurait été une non-assistance à climat en danger, à nature en danger. Alors aujourd'hui, un arbre, c'est un trésor, quoi. Voilà. Et là, à partir de là, on peut pas rester dehors, quoi. Donc, on va certainement rentrer encore aujourd'hui. Mais c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique aussi, là. C'est qu'on peut pas laisser faire, là. Et puis, le pire est à venir, puisqu'ils vont injecter du ciment dans les racines des arbres, quoi, maintenant. C'est ça le problème, quoi. Le défrichement, c'est une catastrophe parce qu'un arbre, ça met 60 ans pour devenir aussi majestueux. Mais là, on va tuer les autres, quoi. Même ceux qui ne sont pas abattus, quoi.
Beaucoup.
importante, la plus grande, ne contient que, voilà, c'est sa jauge, c'est 26 personnes.
Tribunal administratif de Montreuil.
Je vais donner la parole à mon confrère Bonaglia qui s'est exprimé à mes côtés dans le cadre de cette audience.
Poser problème aujourd'hui, c'est le recours à une procédure d'expulsion d'occupants du domaine public pour in fine obtenir le concours de la force publique et de façon plus générale mettre fin à une manifestation et à un militantisme écologique aux alentours de ce parc et interdire aux citoyens, aux élus, aux riverains et à tous ceux qui sont présents pour la défense de cette forêt de se mobiliser, de faire entendre leur voix et le cas échéant de faire pression avec le risque bien entendu et comme d'habitude de cristalliser une situation et de se retrouver dans une situation comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où on en vient de facto à devoir s'opposer à des compagnies de CRS entières et entières dans la défense d'un projet citoyen. Voilà.
Et oui, car comme dit l'adage, ZAD partout, justice nulle part, Antoine.
Eh bien non, le juge des référés du tribunal de Montreuil a rejeté la requête de la région Île-de-France qui demandait donc l'expulsion des militants qui occupaient le site. Une victoire juridique donc pour le défenseur de la forêt de la Corniche des Forts. La mobilisation continue à Romainville.
Et elle continue aussi sur la place de la Plaine à Marseille, où ce n'est pas une forêt que l'on abat, mais tout de même une centaine d'arbres. Et alors que les arbres tombent, un mur se dresse désormais, Give.
Oui, les murs qui tombent et ceux qu'on érige. Parce qu'alors qu'une note confidentielle révélée par Le Monde pointe les manquements d'une municipalité qui compte quand même 40 000 logements insalubres, alors qu'en ce moment même, une marche blanche pleure les 8 morts des immeubles vétustes effondrés ce lundi rue d'Aubagne, eh bien la même mairie a fait murer la plus grande place de la ville pour pouvoir mener à bien son programme de montée en gamme entre guillemets du quartier de la Plaine. Sauf que beaucoup de Marseillais réunis en assemblée populaire s'opposent à l'abattage des arbres et à la profonde modification de ce lieu de vie et de sociabilité. Du coup, le chantier prenant du retard avec les blocages et les manifestants, les riverains mécontents, la ville a fait condamner toute la place avec un mur en béton de 2,50 m de haut, budget quand même 390 000 euros rien que pour le mur, et c'est dans cet habitat vétuste que l'argent devait être réinvesti, pas pour la gentrification de la ville, disent beaucoup d'habitants. Alors pendant que certains manifestent, d'autres font du son, comme Emmanuel Marrera et ceux de la fabrique sonore de la Plaine.
La place Jean Jaurès accueillait depuis plus de 50 ans l'un des marchés les plus fréquentés de Marseille. Mais depuis 15 jours, c'est terminé. Les forains ont été chassés par les tout premiers coups de pioche d'un projet de réhabilitation.
Éteins ta radio. Allume la Plaine.
Éteins ta radio.
Allume la Plaine.
Emmanuel, habitant de Marseille, qui utilise son micro.
Qui utilise son micro, ouais. On s'est amusé à fabriquer des lettres qu'on écrit à...
Cher Jean-Claude.
Jean-Claude Gaudin, Gérard Cheneuse, le président
Cher
de la CLEAM, Jean-Luc Nidel, le paysagiste. On leur écrit.
Cher Jean-Claude,
on leur écrit, c'est meilleur de leur dire, on est le moustique. Tu sais, les moustiques. Tu peux pas te débarrasser aussi facilement des moustiques, tu vois. Voilà, on est les moustiques de la Plaine, quoi. Et c'est une manière aussi, ça fait récit. C'est le récit de la bataille de la Plaine qui se joue à travers ces lettres.
Et justement, à cette occasion, j'aimerais faire une petite chronologie pour ceux qui ont raté les épisodes précédents. Tout ça, ça commençait le 11 octobre.
Au cœur du quartier de la Plaine, la résistance occupe le terrain quotidiennement.
Le projet d'aménagement de la place Jean Jaurès dans le quartier de la Plaine, voulu par la mairie de Marseille, ne passe pas chez tous les habitants. Alors que ce matin avait lieu le dernier marché sous sa forme actuelle, les incidents ont éclaté en début d'après-midi entre policiers et opposants au projet.
Disons que ce qu'on appelle la bataille de la Plaine, c'est le 11 octobre. C'est effectivement le dernier jour du marché et l'arrivée des premiers camions de la Soleam. Le moment où on tente de empêcher ces camions d'accéder à la Plaine. Ça a duré toute la journée. Ils ont peiné à installer leurs blocs de béton. Et puis ils ont fini par en installer quelques-uns. Et le soir même, on a réussi à déplacer ces blocs de béton. À ce moment-là, on a fait une barricade sur la place pour que le camion ne puisse pas rentrer sur la place. Donc on a dépavé la place. Puis à la fin, lorsque la police est partie, lorsque le camion est parti, lorsqu'on a fini par déplacer les blocs, on a repavé la place, de manière à la rendre à nouveau ouverte. Voilà.
On est venu ici pour
Havre. Et surtout, on est venu ici pour dire à la Soléa, à la mairie, à tous les spectaculateurs, on ne les laissera pas faire.
Le 13 octobre, grande manif, touchez pas à la plaine. Oui. C'est l'étape d'après.
Et oui, chose près. Ça y est, ça alerte quoi, d'une certaine manière. Appel à la mobilisation. La plaine, c'est un quartier qui est au croisement de plein d'autres quartiers. Donc beaucoup de monde de quartiers très différents traversent cette place. Donc c'était un appel disant, voilà, la plaine est touchée, il faut se mobiliser. Et donc, il y avait bien 1000 personnes rassemblées en manifestation, passant devant la Soléam, pour voilà, dire cette chose, ne touchez pas à la plaine.
Sauf que le 16 octobre, les tronçonneuses arrivent. Début de l'abattage des arbres.
Sauf que le 16 octobre, début de l'abattage des arbres. C'est violent, mais ça n'a pas été simple pour eux. Du coup, ça se fait dans un grand désordre, cet abattage des arbres. Dans un grand désordre. À coups de gazage, les ouvriers eux-mêmes sont impactés par cela. Bref, un grand désordre, ça va durer quelques jours. Ils tentent de venir abattre, mais ils n'y arrivent plus. Les plots sont complètement sabotés. Les blocs de béton, ça ne marche plus. Bref, il y a une résistance obstinée à ce chantier. Et donc, cette interruption nous permet de réoccuper la place. L'endroit où on joue aux boules, les enfants reviennent dans le parc des enfants qui n'est pas encore détruit à ce moment-là. Et elles se retrouvent encore plus occupées, d'une certaine manière, plus habitées. Et d'un seul coup, c'est cela qui se passe. C'est-à-dire ce désir de se dire, mais en fait, on va la refaire, cette place. On peut.
21 octobre. Cher Jean-Claude, on fait au mieux pour te libérer de tes charges de maire. Sur la place, on célèbre les mariages, on jardine, on a une bibliothèque et on organise des concerts de musique savante. Passe nous voir, ça pourrait même te donner des idées pour les quelques temps qu'il te reste à faire à la municipalité.
Sauf que voilà, l'idée d'une ZAD urbaine en plein cœur de Marseille, ça n'a pas dû plaire beaucoup aux autorités municipales. Et voilà comment, après cette occupation somme toute assez pacifique, le 23 octobre, arrivent les murs.
À Marseille, il y a aussi de la colère.
Les habitués de la plaine ne se laisseront pas faire.
Des chants de protestation face à un mur érigé pour protéger les travaux de réhabilitation de la plaine auxquels s'oppose une partie des habitants.
Et donc ils ont eu cette chose étrange, cette idée de construire un mur de béton armé de 2,50 m de haut qui encercle toute la place. Donc depuis le 30 octobre, il y a un mur 2,50 m de haut qui encercle toute la place. Ce qui est dingue, c'est que ce mur qui coûte 390 000 euros, ce qui est dingue, c'est qu'il est déjà tombé, mais que la Soléam l'a déjà aussi reconstruit. Et chaque fois qu'il tombe, que les fragments tombent, elle revient au petit matin pour reconstruire ce mur. Donc nous sommes rentrés dans quelque chose d'assez étrange, d'une guerre du mur. Donc ce mur, il est toujours là, mais...
Ils le reconstruisent pour que vous autres, les résidents et les habitants...
On le détruit.
30 octobre. Cher Gérard, on voulait t'écrire un petit mot, juste pour te dire que ton mur de béton, ce mur que tu fais installer tout autour de la place avec l'aide de tes amis les policiers, ce mur, Gérard, il va tomber.
Oh, attaque les bords,
ils rangent
les bords.
Ils ont pas la bord.
Ah,
arrive,
il y a deux voitures de police qui arrivent.
On finit le mur, c'est vite fait.
Allez, tout le monde sur la corde.
Allez.
Vous êtes prêts?
Place Jean Jaurès, les habitants accusent la mairie de vouloir embourgeoiser le secteur. Les autorités ont décidé de répliquer en installant une palissade en béton de 2,50 m.
C'est un mauvais procès qu'on nous fait parce que c'est vrai qu'on veut tirer vers le haut. On veut que les commerces travaillent de plus en plus pour qu'on essaye d'enrichir Marseille. Donc maintenant, on a bien compris qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et bien ça se règle dans les urnes le moment venu.
Si tu veux de moi.
Éteins ta radio, allume la plaine.
Éteins ta radio,
allume la plaine.
Oh, oh, bruit qui court. Qui court, qui court.
Ben moi je m'appelle Alessi de l'Umbria, je suis natif du quartier, j'ai grandi dans ce quartier, j'ai toujours plus ou moins vécu, j'ai tous mes amis ici.
Et là ce qu'on entend c'est le bruit des pelleteuses qui sont en train de s'activer derrière le mur qui entoure et qui condamne complètement toute la vue, toute la circulation et toute la vie ici sur la place de la Plaine.
Oui, puis ils condamnent tous les accès à une place publique d'autorité comme ça, un truc qui appartient à tout le monde, tout d'un coup... se retrouve clôturé de la manière la plus carcérale qui soit, quoi.
Et là, je vois, il y a des tags qui ont été graves, qui ont été mis « Réaménager, tue ton quartier ». Plus d'arbres, plus d'ombre, plus d'air. Asphyxie. Une plaine plus chère et plus chiante prévue pour les plus riches.
C'est une destruction, c'est une gentrification. Et là, la plaine au peuple, vive la commune.
Vive la commune. En plus...
Tu sais que les communards, en 1861, c'était basé ici. Et c'est là où il y a eu les combats les plus durs, quoi.
Et là, il y a écrit « Gaudin, vieux con ». Haute trahison.
Haute trahison. Ils détruisent, ils construisent, ils construisent, ils détruisent. Aux chiottes, Gaudin. Je crains des Gaudins, frère. Chez nous, mange tes morts. Faites le mur.
Des morcilles sauvées tendues, et de l'orientant que ça s'y demanda. C'est ce palourd, c'est ce rire, et de la salive que nous amanda. Tu es à quel hiver, j'accueille l'Elisabeth, mais à sa venta, que m'a-t-il un cas d'or, et baille les dons, sa piste de la vélocité.
Alors reprends tes blocs de béton, on n'en veut pas.
C'est pas mal. Et là, c'est cette photo célèbre du mur de Berlin qui tombe en grand.
Le premier morceau qui tombe.
Et qui est collé sur le mur de la plaine. Toute proportion gardée.
Il y a un petit élément que les miradors, quoi. Et ça retombera en noir, de moi, ces souches d'arbres.
Et là, là on voit, ouais, c'est la porte d'entrée, mais qui est barrée comme un checkpoint militaire.
Ah ouais, carrément. Ouais,
avec des grillages. Et là, il y a un vieux monsieur avec sa baguette et son béret là, qui s'arrête pour regarder à travers la grille.
Le premier jour, quand ils ont coupé les arbres, et pareil, le jour où ils ont mis le mur, il y avait des gens qui pleuraient. Hein. Des gens du quartier qui pleuraient. J'avoue que moi, le truc des arbres, personnellement, ça m'a vraiment remué. Moi, j'ai appris à marcher, à faire du vélo sur cette place, dans les années 60.
Voilà, c'est pour ça que je suis venu vous voir, quand même, Alessi de l'Umbria. C'est parce que vous êtes un enfant du quartier et un historien et écrivain du quartier.
Ouais, bah, moi, je ne me définirais pas comme historien ni comme écrivain. Et on va plutôt par là-bas, c'est plus calme, il y a beaucoup de trafic.
Et puis, je vois bien que la vue, ça vous déprime, là.
Ah oui, non, là, ça, c'est déprimé, le mot est même faible.
Il y a de l'or en barre, il fait toujours beau. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer. On y vient pour se rencontrer, pour occuper sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger. On y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
Moi j'habite en face et comme ça fait un moment qu'ils ont mis ces murs, moi je suis venu voir dans quel état était la plaine.
Et alors?
Bah c'est triste quoi.
Un vent se lève et souffle sur la plaine. C'est la plainte silencieuse et sans haine de tous ces arbres abattus qui ne reverront plus sous leur feuillage les amis du quartier, ceux de passage. Le peuple pleure ces grands arbres. Qui peut encore rester de marbre ? Homme, ne sais-tu pas d'où vient l'oxygène ? Un vent se lève et souffle sur la plaine. Reine des Prés, Marseille, octobre 2018.
C'est vous, Reine des Prés ?
Oui.
En dépit de la fronde citoyenne, la municipalité ne recule pas. Les travaux devraient s'achever en décembre 2020.
Là, on voit c'est dans le bruit de la circulation, ces murs, ces palissades avec tous ces graphes et tous ces affiches contre l'occupation par les bétonneuses et par les pelleteuses de la place de la Plaine, à laisser des l'Umbria. Les gens se mobilisent pour que le quartier reste vivant et populaire.
Ah oui, tout à fait. Et là, les gens en ont vraiment marre. Là, je crois que le coup de la Plaine, déjà, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis alors, évidemment, la catastrophe de la rue d'Aubagne lundi dernier, là on ne décolère pas. En plus, les deux premières victimes qui ont été identifiées, là, Fausto et Simone, C'était des gens qui fréquentaient la plaine, qu'on connaissait de la plaine. Hein. Fausto, c'était un gars très proche du Massif Sound System, qui traînait pas mal sur la plaine. Simone, c'était une Italienne, une fille de 24 ans, qui était là depuis quelque temps. J'ai parlé un peu avec elle, comme moi je suis d'origine italienne aussi. Bon voilà, donc on est un peu sous le choc, puis bon, sans parler évidemment de tous les autres qu'on ne connaît pas, mais dont on tient à honorer la mémoire samedi par cette marche blanche, et mercredi prochain, il y aura, je pense, une manif beaucoup plus musclée, à l'appel de tous les quartiers de Marseille, victimes de la politique urbaine, d'abandon. Cet abandon qui précède l'opération coup de poing, quoi. C'est-à-dire la table rase, l'expulsion brutale des gens.
J'ai l'impression que ce chantier, c'est devenu un champ de bataille, en fait.
Clairement, mais en plus, c'est vraiment, ils ont voulu passer en force, en disant, voilà, ils ont perdu leur marché, ils ont perdu les arbres, maintenant, en plus, on leur met le mur de la honte, ils vont être sidérés, ils vont être démolis, et on ne va plus entendre parler d'eux. Là, on ne décolère pas.
Pour la Soleam, la société d'aménagement chargée du chantier, pas question de rouvrir des négociations ni d'interrompre les travaux.
Et ensuite, j'ai une autre communication. Là, je suis en contact avec Stan.
Éteins ta radio.
Allume la plaine.
C'est le soir, on vient de sortir d'un café où il y a une AG qui est en cours. Et c'est l'assemblée de la plaine.
Absolument, oui.
C'est des réunions qui sont ouvertes à tout le monde. Mais c'est des réunions qui existent depuis pratiquement 5 ans, en fait. Oh, ben moi, je m'appelle Jérôme.
Moi, je m'appelle Elvina. Depuis un mois, les projets ont commencé. 46 arbres ont été arrachés, puis tout d'un coup, on a eu un mur en béton. Voilà. Et là, ce qui est juste hallucinant, c'est qu'en bas de notre colline, donc nous, on est la plaine, on est sur cette colline de Marseille, qui est en haut de la Canebière. Et nous, on a des travaux à 20 millions d'euros. Et en bas, et bah, vous avez un quartier dont les immeubles s'effondrent. Voilà.
Ça, c'est le quartier Noailles, qui est juste en bas de cette rue.
C'est le quartier de Noailles, c'est à quelques centaines de mètres d'ici, en bas de la rue d'Aubagne. Enfin, nous, on est en haut de la rue d'Aubagne, la plaine. Ils sont juste en bas. Il y a des gens sous les décombres. On sait qu'il y a d'autres immeubles qui menacent de s'effondrer.
Et tout le monde dit que la mairie était prévenue depuis des années, que la Soleam était prévenue.
Mais tout le monde le savait. Mais tout le monde. Vous regardez la carte de la Soleam qu'elle a publiée sur ce quartier. L'état des immeubles, ils sont tous classés vétustes. Voilà, donc où que vous regardiez sur cette colline, vous avez comme perspective le mur de béton de la plaine qu'on voit de toutes les rues qui arrivent à la plaine. Et vous regardez en bas, vous avez des maisons effondrées. C'est juste incroyable, ces deux choses. Ce sont nos amis, on a des amis. Personnellement, j'ai des amis sous les décombres. Voilà, on sait qu'on a un petit garçon de 9 ans aussi. Des gens de l'Assemblée connaissaient la maman, elle se battait contre son habitat insalubre et elle voulait déménager de cet immeuble du 65 où elle ne se sentait pas en sécurité. Son enfant est aujourd'hui tout seul parce qu'il n'avait déjà pas de père, donc sa mère est morte. Et bien il est tout seul. La mairie qui communique sur son site, la ville de Marseille a mis en place une cellule, ils n'en ont rien à foutre de ce gamin. Personne n'est venu s'occuper de lui. C'est les gens du quartier qui s'en occupent de cet enfant. Vous voyez ce mépris. Ce mépris total, quoi. Et on n'en peut plus. On n'en peut vraiment plus. Alors 20 millions à la plaine, on n'en veut pas de leurs 20 millions. On veut qu'ils partagent avec les gens de Noailles. C'est ça qu'on veut, nous. Rénover notre place, mais ça devient obscène. Pour mettre quoi ? Des brumisateurs, des grandes terrasses avec des parasols, une route qui traverse la place pour faire deux remblas à terrasse. Non, mais c'est ridicule. Bien sûr qu'il faut une rénovation, on se pète les pieds dans les trottoirs. Enfin, ça fait des années, c'est un abandon programmé, comme à Noailles, pour après mettre la main sur la ville. C'est main basse sur la ville, ce qui se passe.
Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages et dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Boule les gars!
Ma ville tombe, ma ville est malade, le bon veine jusqu'aux escalades. Ma ville tombe.
C'était Comme un bruit qui court. Tous les liens et les sons de la plaine sont sur le site franceinter.fr et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.